Bonjour Jeanne.
Bonjour Nicolas.
Alors Jeanne Lepeyer, donc je suis ravi de te recevoir sur Comptoiria pour ce 70e épisode, donc épisode anniversaire. Donc c'est super cool. Jeanne, toi tu es la créatrice, la fondatrice de Being Dream, qui est donc une solution extraordinaire qui permet à tout le monde d'accéder à la création graphique et d'exprimer ce qu'ils ont dans la tête. Jeanne, toi, tu as un PhD en génétique, en biotechnologie de la Sorbonne. Donc, à la base, tu es chercheuse et je pense que tu vas nous en dire plus, mais c'est ça qui est très intéressant aussi dans ton parcours. Mais tout d'abord, Jeanne, est-ce que je peux te demander un petit peu ce qui se passe en ce moment dans l'IA générative, en tout cas depuis un an et demi, sorti de ChatGPT? Comment tu as vécu 2023 et les premiers mois de 2024?
Vaste question. Je l'ai vécu. Alors, ce qui se passe en général, c'est quand même une grosse démocratisation de l'IA. C'est quand même quelque chose qui existe depuis les années 50, je crois même 1956, mais qui était encore assez sous-marin et puis pas très accessible au commun des mortels, je dirais. Donc là, depuis 2021, il y a quand même une grosse démocratisation de ça. Ça permet aux gens de palper un petit peu la puissance de cet outil et puis ses limites aussi. Et puis, comment je l'ai vécu? Bah, assez bien, parce que janvier 2021, quand je commençais à avoir l'idée de Being Dream, on m'a dit que c'était pas possible, ce que je voulais faire. Et c'est vrai qu'avec l'émergence de ce type de technologie, le champ des possibles s'est élargi dans la tête des gens aussi. Et ça a été assez bénéfique pour faire vivre ce projet.
Génial. Donc, tu avais cette idée déjà depuis 2021 et tu as commencé à travailler sur le projet à quel moment?
J'ai commencé à côté de ma thèse, donc c'est pas comme si j'avais beaucoup de temps au départ. Ça se faisait sur le soir. Il y avait beaucoup de choses en même temps parce que en plus de la thèse, il y avait quand même pas mal de cours du soir que je donnais juste pour arrondir les fins de mois. Plus ce projet-là que je commençais à peine à débroussailler. Et puis après, je me suis mise à plein temps à partir de ma soutenance de thèse, donc octobre 2022. Et c'est j'avais déjà pu débroussailler un certain nombre de choses en amont.
Super. Alors, peut-être, Jeanne, juste pour nos auditeurs, donc tu peux nous présenter Being Dream, un petit peu ce que ça fait. Donc, je vais parler d'un outil de création graphique, mais est-ce que tu peux nous présenter un petit peu plus la solution que tu développes?
Ouais, l'idée est vraiment née de permettre à tous, à toute personne qui est porteuse d'une idée, créatrice de connaissances, donc c'est pour ça que c'est né dans ce milieu scientifique dans lequel j'ai évolué, de pouvoir utiliser le stylo non seulement comme outil de communication, parce que tout le monde communique avec des visuels, mais aussi comme outil de réflexion. C'est au moment où on dessine, où l'on crée, qu'on se pose de nouvelles questions, et c'est au moment où on voit ce qu'on a dans la tête, qu'on peut avancer dans nos réflexions et qu'on imagine les choses autrement. Et encore mieux quand c'est collaboratif, parce que plusieurs personnes peuvent se comprendre avec leur propre champ d'expertise sur des visuels communs. Donc ça, je l'ai vu assez tôt, parce que je suis artiste graphique aussi, et donc j'ai passé plus de 10 ans à créer des visuels scientifiques, puisque c'était la sphère dans laquelle j'ai évolué. Donc sans visuel, on ne peut pas breveter, on ne peut pas publier, on ne peut pas avoir de financement, enfin on ne peut pas faire grand-chose, quoi. Mais en fait, je me suis rendu compte que quand tu présentes un visuel à quelqu'un, peu importe le domaine, la personne se met à avoir des nouvelles idées, à rebondir dessus, à vouloir aller plus loin, à vouloir tester des choses. Et ça, c'est du temps perdu d'aller-retour incessant, parce que la personne voudra toujours réfléchir et c'est assez humain. Et plutôt que de brimer ce genre d'interaction, c'est là que j'ai commencé à essayer d'imaginer quelle pouvait être une solution pour permettre aux gens de réfléchir à yeux ouverts et de le faire, pourquoi pas, à plusieurs aussi. C'est comme ça qu'est né le projet. Le fait que derrière il y ait de l'IA générative, il y aurait pu avoir autre chose si autre chose s'y prêtait mieux. Donc c'était vraiment pas un choix de technologie, mais plutôt un besoin de répondre à un problème, et la techno là, qui s'y prêtait le mieux, c'était de l'IA générative.
Excellent. Donc oui, toi, il y a une question de timing, en fait, parce que cette IA, elle t'aide certainement beaucoup. Mais je comprends après que oui, toi, tu as une double compétence art et science qui est quand même assez unique, hein. Tu parlais de ta famille d'artistes. qui t'a permis de découvrir la science à travers l'art et le dessin, et d'une formation artistique donc, que tu as poursuivie tout le long de ton parcours scientifique.
C'est ça.
Donc moi, je trouve ça assez génial parce que en fait, on voit que l'idée sur laquelle tu travailles aujourd'hui, c'est un truc qui t'anime ou qui est un petit peu à la rencontre de tes de passions que tu as déjà depuis plusieurs années, voire presque une dizaine d'années.
Ouais, je pense même plusieurs années. Enfin,
je
depuis
te...
je suis. Ah, tu vas me vieillir. Depuis presque 30 ans. Hein. Non, mais voilà, c'est vraiment un truc qui m'anime au quotidien. Mais c'est vrai que c'est vraiment aussi un outil. Quand je vois les discussions que j'ai, même scientifiques, avec mes parents qui sont artistes, et je me dis, mais la richesse intellectuelle qu'ils ont à apporter à des discussions scientifiques qui ne sont pas du tout dans leur scope, avoir un outil qui permette de créer ces dialogues-là avec des personnes qui n'ont pas la même langue d'expertise, je trouve que c'est tellement enrichissant de pouvoir élargir un petit peu le champ des discussions avec des personnes qui n'ont pas les mêmes outils verbaux de communication, et je trouvais ça vraiment important. Donc c'est vrai, le projet c'est placé là à cause d'un vécu finalement.
Écoute, tout s'aligne parfaitement bien. Et en plus de ça, tu as eu un autre projecteur. J'espère que le podcast en sera un aussi, mais c'est l'émission Qui veut être mon associé, Qui veut être mon associé saison 4, que tu as gagné. Non, je plaisante, et donc sur laquelle tu as eu en tout cas un investissement. Tu as réussi à séduire le jury avec ton projet. Donc un investissement de 500 000 euros, hein, je pense que c'est public, ils le disent dans l'émission, oui. pour aller plus loin. Comment est-ce que tu as vécu cette émission? Est-ce que derrière, ça t'a ouvert plein de portes? Est-ce que tu reçois encore des messages aujourd'hui? Parce que c'était assez récent. Hein,
c'était le 7 février. Ouais.
7 février, on est le 8 avril 2024. Donc raconte-nous un petit peu, ça fait quoi de passer dans Qui veut être mon associé et de lever des fonds?
Alors moi, je connaissais pas l'émission avant d'y être, en gros, donc j'y suis allée avec assez peu de vécu sur le sujet. J'ai grandi sans télé, donc j'ai assez loin en fait des médias en général télévisuels. Ça a été un coup de stress, hein, faut se dire, parce que quand tu sais que tu vas passer devant 2,5 millions d'inconnus, c'est compliqué à gérer. Tu sais pas comment le projet va être perçu. Tu as quand même 1h30 de discussion sur le plateau, mais que 20 minutes qui sont retransmises à la télé. Et donc, selon le découpage qui est fait, est-ce que les gens vont bien comprendre ce que je fais, ou est-ce que on va juste me calquer sur des technos qui existent déjà et on va pas comprendre le plus du projet. Donc ça, c'était assez stressant. Surtout que j'avais peur aussi d'une mauvaise interprétation de ce qu'on veut faire. On ne veut pas remplacer des personnes, on veut outiller des personnes, et la distinction est vraiment importante pour nous. Je dirais fondamentalement importante. Jamais de la vie je vais vouloir remplacer des esprits comme ceux de ma famille, par exemple. C'est...
Bien sûr. Et en t'adressant directement comme ça à un public aussi large, tu as raison, 2,5 millions de personnes, en effet, tu peux tout à fait très vite. Enfin, là, c'est pas le cas. Je pense que tu as très bien fait ça. D'ailleurs, l'émission m'avait beaucoup plu. Mais c'est vrai que tu peux être catalogué et faire peur si tu le présentes.
Tu peux être catalogué sur ton projet. Tu peux faire peur avec ton projet. Tu peux paraître suffisant avec ton parcours. C'est très compliqué. Et puis, on te matraque beaucoup dans la figure que quand tu es une femme jeune, tu es tout de suite jugée sur ton apparence. Donc, toutes ces questions-là étaient... Bah, pas facile à gérer, je dirais. Je pense que c'est ça qui me faisait le plus stresser, parce que finalement, sur plateau, tu es face à 5 personnes que tu ne connais pas. Donc, tu mesures pas forcément quel peut être l'impact négatif pour ces 5 personnes-là. Par contre, tu mesures assez bien quel peut être l'impact négatif sur 2,5 millions de personnes, même inconnues. Et après, j'ai trouvé que c'était très enrichissant, parce que leurs retours sont enrichissants. J'y allais pour ça à la base. Je pensais pas du tout que j'allais lever des fonds. Ce que je demandais sur plateau initialement était beaucoup plus bas, et surtout c'était le minimum syndical que je pensais intéressant, parce que l'équipe tech coûte cher, la puissance de calcul coûte cher, donc en dessous ça valait pas le coup. Donc je m'imaginais pas du tout sortir avec des sous, je m'imaginais plutôt sortir avec un réseau plus grand. Il se trouve que je suis sortie avec les deux, donc c'est plutôt sympa.
Ah, parfait. Et derrière, tu as eu des marques d'intérêt, en tout cas, de... Est-ce que ça t'a amené aussi potentiellement des nouveaux utilisateurs, des nouveaux bêta-testeurs, et peut-être aussi des investisseurs qui peuvent te contacter pour la suite?
Ça. Alors, il y avait des prospects qu'on avait déjà, avec lesquels on était déjà en train de discuter. Et puis, en fait, ces prospects-là nous ont vus aussi à la télé. Et puis, je pense que ça a donné une crédibilité supplémentaire. Donc, ça a un petit peu accéléré les process avec eux. Ça, c'est vraiment sympa. Je me dis que si ça avait été négatif, ça aurait fait exactement l'effet inverse. Donc, ça aurait été vraiment pas sympa.
Le fameux vu à la télé, quoi.
Ouais, c'est ça, le vu à la télé. Et puis en fait, finalement, là, ça, c'était plutôt porteur. On a eu plusieurs milliers de personnes qui se sont inscrites en liste d'attente. On pensait pouvoir ouvrir les tests plus tôt. Et puis, ben voilà, les aléas de la tech font qu'on a préféré attendre d'être vraiment sécurisé pour pouvoir ouvrir les accès. Donc, dans 2 mois, normalement, on a les accès ouverts. Et puis, on a eu. Moi, ce qui m'a fait très plaisir, j'en reçois encore aujourd'hui. On a eu beaucoup de messages extrêmement positifs. Hein, vraiment, je pense 99% des messages sur plusieurs dizaines de milliers sont positifs. Et puis, on a eu aussi des gens qui sont venus nous voir en disant, ben, les créatifs.
Plusieurs dizaines de milliers, tu dis.
Ouais, c'est l'enfer. J'étais pas toute seule pour.
C'est quand même colossal. Waouh.
Ouais, parce que même ça peut être des messages qui appellent pas forcément à des réponses, tu vois, juste des messages sympas, et puis d'autres qui appellent plus à des réponses. Et puis en fait, ça continue aujourd'hui, donc. Mais des messages notamment de personnes qui sont créatives, qui m'ont dit, ben moi l'IA c'était vraiment le diable, un truc que voilà, je veux pas l'utiliser, je veux pas en entendre parler, et ça risque de remplacer mon métier, je suis complètement contre. Et après avoir entendu ton passage, j'ai changé d'avis, c'est un outil que je peux utiliser moi-même pour décupler ma créativité, me faire réfléchir à des choses autrement. Et des gens qui nous ont remercié pour ça, je me dis déjà changer d'avis. Mais en plus, dire à voix haute que tu changes d'avis, je trouvais ça très, très beau.
Ah, non, mais ça m'étonne pas. Je pense que tu. Bah, je pense qu'en tout cas, c'est sûr que tu as dû faire un superbe travail d'évangélisation que tu fais avec le podcast et avec les meet-ups, et en particulier à destination de ces professions de créatif, de designer, de graphiste. Donc, c'est cool.
C'est vrai.
Et au moins, tu vois, tu t'as fait parler du sujet. Et je pense que si après, ta personnalité et ton parcours font qu'on. On dû rassurer aussi parce que on voit que c'est pas opportuniste en fait, justement.
Ouais, je pense qu'il y a eu cette idée-là aussi de. Ben, on vogue sur une vague en ce moment qui est très à la mode, et donc c'est compliqué aussi de faire comprendre que j'ai pas lancé ce projet-là parce que je voulais absolument créer un truc en IA parce que je sentais que ça allait rapporter du pognon, quoi. C'est pas ça l'approche du tout. Il se trouve qu'on utilise de l'IA et que d'ailleurs c'est bien enquiquinant parce que ça demande des ressources qu'il faut aller chercher. Donc ça c'est déjà un point. Puis j'ai aussi eu des messages de personnes du monde de la recherche qui m'ont dit, mais merci parce que c'est la première fois qu'on voit quelqu'un de notre espèce, entre guillemets, prendre la parole en public. Et c'est vrai que les chercheurs, on n'a pas super bonne presse sur la manière dont on est capable de prendre la parole en public et d'exprimer des choses parfois complexes. Donc peut-être qu'il y a eu aussi ce côté qui était assez porteur parmi des jeunes chercheurs.
Je vois très bien, donc super. Alors, pour revenir un petit peu aussi donc sur l'IA, ChatGPT, Midjourney. J'ai bien compris que tu avais une intériorité sur ton projet par rapport à ça. Mais comment est-ce que tu vois ces outils, toi, aujourd'hui? Est-ce que tu les utilises?
Ouais, je les utilise de manière ponctuelle. Je les utilise surtout pour, c'est ça, élargir le champ des possibles avant de retravailler moi-même un certain nombre de points. Donc plus comme source d'inspiration. Je les utilise de manière ponctuelle aussi parce qu'il y a cette idée de consommation énergétique en utilisant des IA que j'ai du mal à accepter pour mon utilisation personnelle en tout cas. Je trouve que c'est une vraie. Ouais.
Tu penses à ça, en effet, tu penses à la
Ouais.
consommation énergétique dans ton usage, tu veux dire?
Tout le
Enfin,
temps. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu envoies une requête, la question que je me pose en premier, c'est est-ce que je peux obtenir l'information autrement, par exemple en cherchant sur Google, qui consomme moins d'énergie, qu'en lançant une requête d'intelligence artificielle?
Alors attends, parce que j'ai les chiffres là-dessus, parce que je les dévoile et je fais des petits jeux pendant les formations que j'anime, justement. Donc c'est
Ouais.
alors Donc, un prompt sur ChatGPT, c'est égal à combien de recherches sur Google?
Ah, oh, wow, aucune idée.
10. 10 recherches Google égale un
Ah
prompt.
ouais.
Et attends, j'en ai un autre donc, qui est assez parlant. C'est sur donc, une génération d'images sur Midjourney. D'accord? C'est équivalent à une charge complète de smartphone.
Ouch. Mais
Donc,
c'est
tu as
bien, du
bien
coup,
raison. Tu as bien
tu
raison.
confirmes mon approche. Mais c'est
Je
bien. C'est bien parce que c'est exactement les outils de mesure qu'on est en train de mettre en place. On a envie que les personnes soient au courant. Ce n'est pas de la culpabilisation, c'est juste être au courant de ce que ça représente derrière. Et ça fait partie des choses qu'on a envie de mettre en place. C'est de l'information, je dirais, pour que les personnes ne naviguent pas dans le vide. On parle souvent d'IA comme des boîtes noires. Résultat, on ne sait pas trop quelle est la quantité de données, la quantité d'énergie que ça demande. Et je trouve que c'est aussi de notre responsabilité à tous ceux qui développent des choses liées à l'IA que d'en informer les personnes qui peuvent s'en servir.
Ouais, t'as raison, t'as raison. Donc, je pense que c'est hyper important. C'est assez simple à retenir. Hein, tu vois là, les deux ratios que j'ai donnés. Je pense que c'est toujours bien de les avoir en tête, sachant que le but, bah, évidemment, c'est de faire diminuer cette
C'est ça.
consommation. Et après, en parallèle, alors, moi, je fais de la formation avec My Connecting IA. Donc, si ce que je dis de temps en temps, c'est si on peut apprendre même à mieux prompter, d'une certaine manière, ça
Et
peut être
oui.
presque vu comme un acte citoyen parce qu'on arrive au même résultat, voire un résultat meilleur, avec une consommation d'énergie inférieure.
Je suis bien d'accord avec toi et c'est un peu l'approche qu'on a aussi chez BingDream, c'est on ne veut pas que les personnes apprennent à parler à une machine, tout ça c'est stupide comme principe. On préférait que la machine puisse s'adapter à la manière dont nous on souhaite communiquer et le processus itératif qu'on met en place, donc de modifier des brouillons à main levée par itération jusqu'à arriver à un résultat final, on a espoir, en tout cas, enfin, c'est ce qu'on voit, mais que la personne, parce qu'elle peut regribouiller à un endroit particulier, puisse être plus précise dès le départ ou à chaque étape, et que donc elle arrive à quelque chose de proche plus rapidement, donc avec moins d'itérations. Donc ça, c'est des choses qu'on est en train de mettre en place et de mesurer surtout.
Oui, j'ai trouvé ça. Je mettrai le lien de ta démo ou du site, en tout cas sur l'épisode. Mais en effet, ce fonctionnement par brouillon, et ce que tu expliquais, que chaque épreuve en fait est conservée et n'est pas perdue, je pense que c'est un truc très intéressant et au final différent de Midjourney ou de Runway, sur lesquels en fait les utilisateurs un peu experts ou acharnés génère. Moi, tu vois, ça, j'ai très régulièrement, j'ai des experts créa qui sont vraiment des stars hein, sur Instagram, qui me disent non, mais de toute façon, j'ai un compte pro Runway, je génère 5 par 5 parce que je sais que je vais en jeter 4, tu vois.
Ouais,
Et
c'est ça.
donc, on est un peu sur une surconsommation. Et alors que par contre, conserver les épreuves, les brouillons comme tu le fais, je pense que ça te met plus dans la continuité. Ouais.
Non, c'est vrai que c'est une approche de la consommation, mais qui est très liée à notre société actuelle, hein. C'est comment pousser à la consommation. Et on voit qu'en IA, il y a beaucoup de ça aussi. C'est je génère, je génère, je génère, je génère, je ne sais pas trop pourquoi je génère. Je continue à générer, j'oublie ce que je cherche d'ailleurs au final. Parfois, ça peut donner des choses très chouettes. Et puis parfois, on se rend compte qu'on a juste perdu plusieurs heures à générer des trucs pour on ne sait pas trop quoi. Donc voilà.
C'est vrai qu'on est sur des outils qui sont révolutionnaires et hyper puissants. Et très souvent, en fait, la clé, c'est juste de savoir bien poser la question, quoi, ou la bonne question.
Et c'est assez rare dans le monde de l'histoire humaine que des révolutions technologiques soient dans les mains des concitoyens si tôt. C'est-à-dire avant même que on sache quel est l'impact réel sur la société, sur l'environnement, etc. C'est très tôt. C'est comme si on avait une grosse révolution, mais c'est par exemple le nucléaire. Ben, c'est comme si tout le monde avait accès à des centrales nucléaires sur leur toit très tôt. C'est rare, c'est-à-dire qu'on a eu accès à des choses liées à l'atome trop tôt, c'est sûr, ça a causé un certain nombre de problèmes, mais après la technologie est restée entre les mains d'un petit groupe. Donc c'est intéressant aussi, sociétalement, de voir ce que ça donne quand tout le monde l'a en main et tout le monde le démocratise et voir comment un outil comme ça peut évoluer.
Oui, très bonne comparaison avec l'atome. Est-ce que tu as un usage secret ou hyper pratique de l'IA générative à nous révéler?
Ah, c'est une bonne question, ça. Alors, c'est une bonne question. Bah, par exemple, je m'en servais pas mal hier, justement, parce que j'étais en train de faire des diapos. Moi, je suis comme le commun des mortels, hein. J'ai aussi besoin de faire des diapos et des PowerPoints pour présenter mes trucs. Et j'utilisais Bing, justement, et je me disais, mais pourquoi je passe par Bing et pas par Midjourney ou autre chose, au-delà du fait que je peux utiliser Bing, c'est que ce que j'aimais bien faire, c'était faire des collages. Je prenais plusieurs photos. Une photo d'une personne en train de dessiner, une photo d'une personne sur un ordinateur, une photo de Saint-Pétersbourg ou je ne sais quoi, et je faisais un montage comme ça, donc vraiment collé-collé. Et puis je sélectionnais l'ensemble, et puis je disais ce que je voulais obtenir avec cet ensemble-là. Et
Avec Bing.
ouais, et en fait c'est ça que
Alors
j'aime bien.
attends, parce que donc comme on est sur YouTube, mais pour que nos auditeurs aussi se représentent bien. Donc alors vas-y, refais-nous tu mettais Saint-Pétersbourg, comme ça pour ceux qui ont
Ouais,
encore
un
une imagination
palais de
visuelle.
Saint-Pétersbourg.
OK. Ensuite,
Je
après.
mettais une fille en train de dessiner sur une feuille de
Okay.
papier et je mettais un gars sur un écran d'ordinateur. Et en fait, ce que je
Et
voulais que
tu
ça
fais les, tu
donne,
mets les trois sur
je mets
ton bord
ça, ouais, je
de.
les copie-colle vraiment, CTRL-C, CTRL-V, basique.
OK.
Je sélectionne ces trois trucs-là. Et ce que je cherchais à obtenir était une image d'une personne en train de dessiner à côté d'un mec qui lui était en train de faire des trucs sur l'ordinateur, donc cet esprit collaboratif avec chacun son médium en gros. Et ensemble, ils imaginaient quelque chose et ce quelque chose-là on devait ressembler au château de Saint-Pétersbourg. Donc c'est des choses comme ça où je me dis, mais parfois, moi-même, alors que j'aime bien dessiner, etc., mais il y a des moments, tu as juste des univers dans ta tête qui pop, tu les récupères, tu les copies-colles, ça te prend 2 secondes et demie, et tu génères des images avec ça. Et il y a des choses qui ont été faites que je trouvais vraiment bien par rapport à ce que j'avais en tête.
T'as réussi à sortir quelque chose là-dessus, donc
Ouais,
ça c'est cool.
alors je pourrais t'envoyer des exemples de trucs. Alors c'était cet exemple-là ou un autre, mais ça c'est vraiment un côté hyper rapide et ludique aussi. T'as une idée en tête, tu fais du patchwork de trucs, tu positionnes un peu très très grossièrement et t'arrives à obtenir des choses qui sont assez sympas.
Et avec un prompt aussi, hein,
Et avec un prompt vraiment ridicule pour le coup, c'est genre groupe de personnes créant ensemble et le dessin devient la réalité, un truc comme ça, je crois. J'ai pas dû me casser la tête plus que ça.
Ah ouais, non mais écoute, j'ai hâte de voir cette image. Peut-être que je pourrais m'en servir pour illustrer notre podcast, l'épisode sur LinkedIn ou une autre création. Donc c'est super. Ok, donc mais on voit donc la puissance de cet outil et la facilité avec laquelle, en tout cas, on peut créer. Est-ce que ma question récurrente, Jeanne, est-ce que ChatGPT a passé le test de Turing, selon toi?
C'est une bonne question. Alors, quelle version?
Alors, bah, la version standard Turing, donc tu sais en fait, comparer, mettre deux personnes en scène, enfin une personne qui discute avec un être humain, une autre et une personne qui discute après avec un ordinateur, voir si elle arrive à faire la différence. Bon, ça c'est la version standard, mais c'est vrai qu'après, pas mal de personnes demandent à avoir un test amélioré de Turing qui peut se décliner sous, qui peut se décliner. Enfin bon, donne-moi ton point de vue là-dessus surtout.
C'est une bonne question. Moi, je pense que ça n'a pas dû bien se passer, le test de Turing avec ChatGPT. Il en fait ou pas, du coup? Oui, j'imagine.
Oui, t'en as plein qui le font. Ouais. Mais par contre, mais non, non, mais par contre, une vraie expérience, tu vois, en bonne et due forme, une expérience scientifique, comme tu les connais sur le sujet, à ma connaissance, ça n'a pas été fait.
Ok, ça sera intéressant de vérifier.
Ouais.
Mais écoute, je pense pas que ça se soit passé de manière très positive pour ChatGPT, en tout cas, ce test-là. J'imagine pas un truc qui se passe très correctement.
Toi, tu utilises ChatGPT plus, GPT-4,
Non, la base, vraiment la
mais
base
la
de
version
base.
gratuite 3.5.
Ouais, j'ai testé évidemment les outils parce qu'il faut bien qu'on regarde comment ça avance l'IA dans la vraie vie. Et l'équipe aussi teste pas mal de trucs, mais finalement, on n'est pas les plus grands joueurs avec des IA génératives à la base, justement parce que le projet n'était pas tant de faire de l'IA générative, mais de faire vivre cet outil-là. Et en fait, on se rend compte qu'en voulant mettre au point Bing Dream, on se retrouve à créer des choses en IA générative, enfin, à créer des modèles qui n'existent pas encore. Et c'est intéressant comme quoi, selon l'approche que tu as, tu vas avoir des besoins différents. Donc, c'est des trucs dont je ne pourrais pas parler là aujourd'hui parce que c'est en cours de rédaction de brevet, mais dans quelques mois, on espère pouvoir en parler un peu plus en détail.
Ah d'accord, donc ce que tu dis, c'est que vous déposez des brevets aussi avec Bing.
Ouais,
D'accord.
exact. En total, ça va être 3 cette année, a
Ah oui.
priori. Donc voilà, ça avance bien. Mais c'est rigolo comme quoi on arrive à innover sur des choses sans s'y attendre, en train de se dire bah, c'est évident qu'il faut faire ça comme ça, et se rendre compte que en fait non, ça ne se fait pas du tout comme ça dans la vraie vie. En tout cas, chez les autres personnes qui sont sur ce terrain de jeu aussi, et que ça demande pas mal d'astuces et de ressources intellectuelles pour pouvoir mettre au point ce qu'on a en tête. Ouais.
Oui, bien sûr. Jeanne, j'ai vu que tu étais dans des associations, en tout cas, enfin, que Being Dream était aussi, enfin, une entreprise deep tech.
Ouais.
Comment est-ce que tu vois la place de la France, donc
En
aujourd'hui,
deep tech?
en deep tech et en IA générative?
Eh bien, écoute, pas au niveau de son potentiel, en vérité. Il y a énormément de des tronches, enfin des cerveaux français en IA qui sont partis aux US parce que ça payait mieux ou parce que les opportunités étaient plus grandes, mais depuis des années, depuis des dizaines d'années même. Donc là où ça me rassure, c'est que je sais qu'on a un potentiel créatif et R&D et tout ce que tu veux incroyable, vraiment, en France, notamment en IA. Donc ça, je trouve, c'est plutôt un bon point. Et ce que j'ai voulu faire aussi à travers ce projet-là, parce qu'on est beaucoup de jeunes docteurs dans l'équipe, c'est pouvoir valoriser de la recherche en intelligence artificielle française, mais aussi la valoriser commercialement par une entreprise française. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la recherche est en public, ce qui doit l'être, enfin, je suis plutôt pour. Elle est donc publiée dans des journaux accessibles à tous. Et bah, les US sont quand même très bons vendeurs, très bons commerciaux. Et donc, ils peuvent, comme tout le monde peut, récupérer ces résultats de recherche, les marketer, en faire des produits et les vendre. Donc, en fait, la France se retrouve à payer de la recherche et acheter des produits. Donc, le retour sur investissement n'est pas folichon, quoi. L'idée, c'est de travailler un petit peu là-dessus aussi, de pouvoir redonner confiance aux Français qui sont peut-être moins au courant de ce genre de choses et de montrer qu'il y a des possibilités qui peuvent se faire sur le territoire. Donc, je suis plutôt optimiste en vérité sur ça, parce que ce n'est pas une question de cerveau et ce n'est pas non plus une question de capacité de recherche, c'est plutôt une question de capacité d'évolution de ces cerveaux-là qui s'y retrouvent pas en France.
Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton équipe, justement,
Ouais.
Jeanne, chez Blink Dream? Parce que c'est un peu toi le visage aujourd'hui, notamment avec cette émission, mais j'imagine que tu n'es pas toute seule. Et s'il y a des profils issus de la recherche, c'est intéressant.
On est 7 aujourd'hui dans l'équipe et on est quasiment la moitié issu de la recherche, donc docteur, jeune docteur. Il y a à la fois des docteurs en neurosciences, parce que si on veut adapter l'outil à notre manière à nous de discuter, et si on veut permettre une réelle progression en créativité et, ouais, voilà, et en imagination en général, on a besoin de cette compétence-là. On a bien sûr des compétences en intelligence artificielle et machine learning. Ça paraît assez logique. Après, on a des personnes qui sont plutôt ingénieurs seniors, donc computer vision, machine learning aussi, bien sûr. Et puis, une partie sales, mais c'est que des personnes qui ont, parce que même la sales, ce sont des gens qui ont fait un parcours scientifique avant. Donc, en fait, on se rend compte que l'équipe a beaucoup réuni des personnes qui sont uniquement chimères entre plusieurs choses, enfin des mélanges quoi, des parcours un petit peu exceptionnels ou des choses qui se sont ouais des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et c'est ça que j'aime bien aussi, parce que c'est un projet qui a pour but de permettre à des expertises différentes de communiquer ensemble. Et du coup, j'apprécie assez qu'au sein de l'équipe même, il y ait des gens qui aient touché à plusieurs expertises différentes, justement. Et puis, c'est une équipe très, très, très variée, c'est-à-dire que ça va de 23 ans à 63 ans, 64 maintenant. Ce sont des personnes...
De 77 ans.
Ouais, c'est ça. C'est beaucoup de cultures différentes aussi dans cette équipe. Et puis, étrangement, une majorité de filles.
Ah.
Comme quoi, on ne s'y attendrait pas.
Ah bah, écoute, super, super, oui, c'est vrai qu'on le dit toujours, il n'y en a pas assez aujourd'hui dans l'IA générative, donc c'est très bien d'avoir cette majorité féminine. Jeanne, j'aimerais te demander aussi sur Being Dream, donc, est-ce que tu es en discussion avec des grands groupes, des industriels ?
Ouais.
On pourrait tout à fait imaginer, on imagine très bien Bing, Dream, donc pour faire de la conception, pour faire de la modélisation.
C'est ça.
Et je ne sais pas, tu vois, n'importe quelle grande boîte, un Dassault Systèmes, un Decathlon, je donne vraiment des noms au hasard.
Ouais.
Et tu ne m'as jamais parlé de ces acteurs-là. Mais est-ce que, par exemple, tu discutes avec des boîtes de cette taille-là est-ce qu'ils réfléchissent à intégrer un peu ton outil, par exemple ?
Alors, effectivement, on discute majoritairement avec des grands groupes pour le moment. Ça nous permet de faire évoluer l'outil avec des acteurs du marché qui sont assez importants. Je ne vais pas en citer particulièrement, si ce n'est un, aussi parce que c'est marrant, tu l'as cité, mais Dassault Systèmes aussi, parce qu'en fait, dans notre advisory board, on a une personne qui était... COO de Katia de chez Dassault Systèmes. Oh. Et en fait, c'est hyper intéressant parce qu'on a des retours de comment ça peut fonctionner. On est pas mal en échange avec eux. On bénéficie de leurs retours clients. Parfois, il y a un monde entre ce que le client pense avoir besoin et ce dont il se sert vraiment. Et eux, bon, bah, ils ont quand même des années de travaux terrain sur ces questions-là. Donc, c'est assez appréciable de pouvoir échanger avec ces groupes-là.
Ah, écoute, je suis super content parce que j'ai cité deux noms comme ça, tu vois, sans préparation. Et j'en ai quand même un juste, peut-être le deuxième un jour aussi, je te le souhaite.
Ouais, ouais, c'est ça.
Et je vois très très bien la logique. Je pense que c'est très important pour eux aussi et de l'autre côté, eux aussi, c'est très intéressant pour eux de suivre un petit peu ce qui se fait.
C'est ça.
C'est génial. Ok, très bien. Jeanne, toi, comment est-ce que tu vois l'IA générative ? Est-ce que tu vois ça sur l'éducation ? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut nous aider à nous former, répondre un petit peu donc au manque de profs de l'éducation nationale ? Est-ce que tu penses que ça va révolutionner notre formation ?
C'est une question touchy, hein, parce que un outil, selon comment il est utilisé, ça peut être très négatif ou à l'inverse très positif. Je vais me focaliser sur ce qu'on peut imaginer de positif, parce que je pense que le monde des médias est tout à fait apte à se focaliser sur ce qu'on peut imaginer de négatif. Mais en tout cas, sur ce qui est de positif, je pense que ça peut être un outil qui permette à des personnes, donc des enfants aussi, mais de travailler un peu plus en collaboration les uns avec les autres. Ça peut être un outil qui peut lisser un peu des différences, par exemple des personnes, des enfants qui ne parlent pas encore bien alors que des camarades parlent mieux, qui écrivent pas encore bien alors que des camarades parlent mieux ou qui dessinent pas encore bien, etc. Et donc ça peut peut-être être un peu plus inclusif dans certains cas d'usage, en tout cas, et permettre à des groupes d'enfants de partager des choses, de créer à plusieurs. Je pense que ça peut être intéressant. Et pourquoi pas de permettre à des professeurs ou des enseignants d'avoir des cours peut-être plus interactifs, être un peu moins spectateurs de ces cours-là. Et puis après, de manière très basique, moi, je me rappelle de présentations visuelles de certains profs, mais l'enfer, quoi. Ça va que tu es intéressé par ce que tu apprends, mais je ne vois pas dans quel monde tu peux intéresser qui que ce soit qui n'est pas déjà intéressé par des présentations aussi horribles à regarder. Donc, je me dis que rien que pour un côté un peu plus esthétique, c'est-à-dire donner envie aux gens d'aller dans certaines filières, ça me paraît assez intéressant. Après, je reste vigilant, je dirais, sur les dérives que ça peut aussi avoir. Donc, voilà.
Mais c'est vrai que ce que tu dis, et ça, c'est je pense, une de tes spécialités, mais sur la représentation, donc les schémas scientifiques, justement, de tous ces papiers, à la base, ce n'est pas évident. Il faut des illustrateurs qui passent des heures dessus, des artistes. Et là, en fait, tu peux aller beaucoup plus vite.
Les scientifiques ne vont pas forcément les demander ou aller payer des illustrateurs externes, sauf si vraiment c'est le papier du siècle. Et donc, ce qui se passe, c'est que les visuels sont assez catastrophiques en termes d'intérêt visuel même. Et puis, le problème, c'est que quand ils font appel à quelqu'un d'extérieur, c'est une personne qui n'a pas le vocabulaire scientifique adapté. Ce qui est normal, elle a d'autres expertises. Et donc, il y a une déperdition d'informations, une perte de temps qui est énorme pour les deux. Donc, c'est parce qu'en général, le scientifique ne va pas payer plus cher parce que la personne d'en face a besoin de plus d'aller-retour. Donc, il y a vraiment un ratio temps perdu pour un certain coût donné. C'est très compliqué. Et donc, parfois, tu as juste envie de leur dire, mais attends, tu veux tester des trucs, tu as d'autres idées, mais prends le dessin. Amuse-toi avec, dessine des trucs, fais-le évoluer comme tu veux. Une fois que tu es bien sûr dans ta tête de ce que tu veux, là, tu reviens vers moi. Mais c'est vrai que ça aiderait beaucoup, mais je pense, dans tout ce qui est de l'élaboration intellectuelle de quelque chose, que de pouvoir voir un peu plus précisément ce que tu as en tête, parce que c'est là que tu vas à faire avancer ton raisonnement. Parfois, tu es juste bloqué, c'est assez flou et tu n'arrives pas à avancer. Donc, c'est ce genre de choses que je pense intéressantes à mettre en place aussi dans des secteurs liés à l'éducation, effectivement.
Oui, bien sûr. Et c'est ce que Being Dream, en tout cas, participe à faire aussi.
C'est ce vers quoi j'aimerais effectivement aller. Et puis, ça va aller vers d'autres terrains aussi. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, si tu veux réhabiliter un quartier, plutôt que de discuter qu'avec des architectes et avec le maire du quartier, ben, pourquoi pas faire vraiment participer la population, de les faire dessiner, imaginer ce qu'ils ont envie d'avoir dans leur quartier, comment ils pensent circuler dans leur quartier. Et ça, c'est aussi un travail de communication qui est important. Je suis convaincue que la plupart des litiges, même mondiaux qu'il y a aujourd'hui, viennent de problèmes de compréhension mutuelle. C'est-à-dire, si tu n'arrives pas à te mettre dans la tête de quelqu'un, tu ne peux pas comprendre pourquoi elle fait telle et telle chose. Et donc, tu vas le prendre forcément négativement. C'est difficile de comprendre et d'avoir un recul s'il y a eu un problème de communication au départ. Donc, je pense que créer des outils qui fluidifient cette communication et qui soient inclusifs, ça peut que bénéficier au plus grand nombre, je pense, j'espère.
Évidemment, évidemment. Donc, une amélioration de la communication, je vois très bien. On me donnait un exemple la semaine dernière sur, tu vois, donc, un projet immobilier, justement, sur lequel, tu vois, il y avait une boîte d'architectes qui répondait à un appel d'offres. Et en gros, ben, tu vois, plutôt que se lancer, donc, dans des créations, tu vois, sur plusieurs mois, voilà, grosso modo, ils ont fait répondre plutôt une agence marketing qui leur a généré des visuels avec Midjourney et des outils de Gen AI, de texte ou vidéo, pour imaginer, tu vois, un futur quartier. Et il me disait qu'en fait, ben, tu vois, il y avait une espèce d'accélération là-dessus qui permet de se représenter quelque chose sans aller au bout du travail de l'architecte, de se faire une image et d'éviter de perdre, tu vois, de trop de temps sur un appel d'offres ou sur lequel, en fait, il risque de ne pas passer non plus. Mais en même temps, on arrive quand même à se représenter un petit peu le projet assez facilement et assez rapidement. Et je trouvais ça assez marrant parce que je pense que ça peut bousculer, tu vois, pas mal de circuits de vente qui étaient un petit, qui peuvent sembler aussi un petit peu dépassés. Parce que faire bosser, tu vois, des gens pendant 3 mois pour un truc, pour savoir est-ce que c'est dans la bonne direction ou pas, et est-ce qu'on jette à la poubelle tout ce qui a été fait, ben, une fois de plus, on en revient un petit peu sur les générations pour rien de tout à l'heure, mais c'est un peu du gâchis, quoi.
Bah, ça me fait penser à une entreprise avec laquelle on discute qui me disait justement, bah, nous, on passe 3 mois à passer de l'idée au prototype 3D. Et parfois, on se rend compte, une fois qu'on est arrivé là, qu'en fait, on aurait peut-être pu faire les choses autrement, que ça aurait mieux rendu dans l'espace, etc. Sauf que, bah, on n'a pas envie de tester parce qu'il faudrait repartir pour trois mois de process. Et donc, du coup, ça nous coûte trop cher et on ne le fait pas. Et je me dis, mais toutes ces bonnes idées à côté desquelles on passe juste parce que on n'a pas les outils adaptés pour pouvoir tester nos idées avant de se lancer dans de la prod dure. Mais je trouve ça vraiment dommage.
Mais c'est génial. Donc, en fait, ça veut dire on parle d'une accélération du prototypage, quoi. Enfin...
Ouais, je pense qu'il y a deux points. Il y a comment avoir plus d'idées, déjà. Ouais. Comment tester plus d'idées. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu peux tester tes idées visuellement, tu peux les explorer. Donc, comment explorer un maximum d'idées et même des idées en dehors de ce que tu aurais eu l'habitude d'imaginer. Et puis, l'autre chose, c'est mettre en situation plus rapidement. Tu vas mettre en situation d'autres personnes et du coup, elles vont pouvoir participer à l'élaboration de tes idées. Et ces deux trucs-là, à mon avis, peuvent vraiment propulser des innovations qu'on n'aurait pas faites comme ça, des process qu'on n'aurait pas initiés de cette manière, qui me paraissent assez intéressants.
C'est génial. C'est la magie de la démocratisation de l'IA. Super, Jeanne. Par rapport au... Donc, toi qui es une scientifique à la base, est-ce que tu penses que c'est LLM et modèles de génération d'images, hein, peuvent nous conduire à des possibilités, à des grandes découvertes au niveau scientifique?
Ouais, il y a un truc duquel on parle depuis qu'on parle de l'ère des données. Maintenant, on parle de l'ère de l'IA, mais en fait, l'IA, il n'y a pas d'IA sans données. C'est que depuis quelques temps, quelques dizaines d'années, on collectionne un nombre incalculable d'images et de données en général. De données, mettons. Par exemple, on a construit des télescopes tellement super puissants qui peuvent prendre des images incroyables de l'univers. Et tout ça pour que le scientifique en question puisse regarder le petit machin qui l'intéresse. Et donc, ne pas regarder le reste. Pas parce qu'il veut pas, c'est juste parce qu'il a un sujet de travail et qu'il faut bien avancer sur ce sujet-là. Et en fait, là où l'IA, je trouve, a vraiment son rôle à jouer là-dedans, c'est de pouvoir donner des pistes d'intérêt de réflexion, voire de futurs projets de recherche, en croisant une grande quantité de données et en pointant un peu du doigt quelque chose qu'on n'aurait pas vu parce qu'on n'aurait pas croisé ces données-là. Peut-être qu'en croisant des données de telle maladie avec des... je dis vraiment n'importe quoi, mais c'est le but. Des données de telle maladie avec... tel mouvement interstellaire, et ben en fait deux choses qu'on se serait dit mais jamais de la vie on va les comparer, et on se rend compte que bah, peut-être qu'il y a quelque chose à voir. Ça donne pas la réponse, ça dit pas tiens il se passe ça et donc voilà la réponse, mais plutôt de pointer l'intérêt d'un humain vers un sujet scientifique qu'il n'aurait pas forcément anticipé. Et ça peut se faire que si tu brasses une très grande quantité de données. Il faut faire attention comment ces données sont brassées, parce qu'il faut pas de biais, sinon tu vas indiquer, enfin après c'est pas très grave, mais tu fais perdre du temps, tu vas indiquer un sujet d'intérêt et en fait on va vite se rendre compte qu'il n'y a aucun intérêt sur la question parce qu'il y avait juste un biais dans les données. Mais ça peut en tout cas pointer du doigt des sujets de recherche qu'on n'aurait pas anticipé.
Je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'on n'a pas encore assez vu ces projets-là, tu vois, ces découvertes émerger, ouais. Parce qu'on attend un petit peu au-delà de tu vois, des gains de productivité, des vraies découvertes. Récemment, avec Claude 3, donc le dernier LLM de Anthropic, on a dit qu'il avait fait des petites découvertes sur des papiers sur le quantique, mais à la base on parle de LBD, donc Literature Based Discovery, découverte en comparant des grands corpus de données comme ça. Et c'est vrai, quand on voit toutes les publications scientifiques que tu connais bien mieux que moi, hein, mais sur les archives justement, tous ces papiers, en fait, pouvoir les croiser de manière quasiment instantanée, hein, parce qu'on parle de ça aujourd'hui, ouais. Quand on voit les fenêtres de tokens, 1 million de tokens sur Gemini, 200 000 sur sur Claude, donc c'est un bouquin de 150 pages, quoi, grosso modo, pouvoir mettre tous ces papiers de recherche là-dedans et les croiser, enfin, grosso modo, ce serait... Il est presque sûr qu'on peut en faire quelque chose, qu'on peut en tirer des idées, et on a hâte de voir ça.
C'est ça. Bah ouais, il y a les papiers rédigés, mais après, quand ils sont rédigés, ils ont déjà eu un biais par la personne qui rédige le papier, parce que quand on rédige un papier en science, on essaie de raconter une histoire qui fait sens. Et par contre, il y a un autre truc, c'est vraiment de brasser les données brutes, les trucs qui n'ont pas été analysés, qui n'ont pas été interprétés. Parce que ces données brutes-là, à mon avis, elles recèlent des choses mais tellement fantastiques. Quand on voit que pour faire des IRM, parfois, du cerveau, on fait des sous-couches au millimètre près, tout ça pour regarder un machin. Donc, ça se trouve, il y a une sous-couche dans tout ça qui nous intéresse. Et bien, toutes ces quantités énormes d'images, elles pourraient continuer à être brassées. Et je pense qu'il y a des projets là-dessus. Enfin, ça, j'en suis convaincue. Je sais qu'il y a des projets là-dessus, sur ces données-là. Et peut-être que le citoyen n'est pas encore franchement au courant de ce qui se passe tant qu'il n'y a pas de grande percée en la matière. Mais ça me paraît être une application de l'IA qui est essentielle, vu la quantité de données qu'on amasse pour pas en faire grand-chose.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'on n'en parle pas assez, mais je pense que les LLM, donc l'IA générative, vont être un petit peu, tu vois, comme des microscopes ou des télescopes, tu vois. Enfin, ces inventions, tu vois, qui nous permettent ensuite de mieux comprendre le monde, parce que sinon, juste pour un être humain, tu vois, se taper tous ces documents, ces datas, c'est assez compliqué. Et peut-être, j'espère que plein de choses vont en sortir, mais j'en suis assez convaincu. Trop bien. Jeanne, est-ce que tu as une timeline pour ce qu'on appelle l'AGI, donc l'intelligence artificielle générale?
Tu veux dire, est-ce que j'imagine quand est-ce que ça peut sortir, tu veux dire?
Qu'on peut y être.
Alors, c'est marrant, j'ai peut-être pas la réponse à ta question, parce que j'ai rarement vu l'intérêt de vouloir copier l'humain, même de surpasser l'humain. En fait, je me dis, biologiquement, l'humain ressemble à ce à quoi il ressemble. Il y a des gens, par exemple, qui disent la nature, elle est trop bien faite, elle a tout optimisé. Pas du tout. C'est juste de laisser erreur. Et donc, c'est plein de mutations, qu'on peut appeler ça essais. La majorité de ces mutations-là sont invisibles, ça ne fait rien de quoi que ce soit. Et puis, une grosse partie, elles sont néfastes, donc erreur. Et puis une petite partie, elle va apporter quelque chose de mieux. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est des concepts un peu de biologie là, mais
tu nous parles d'évolution, on est d'accord?
Ouais, je te parle d'évolution, mais qui va expliquer
vas-y.
En fait, ce qui se passe, c'est que à chaque fois qu'il y a une évolution, on parle de fitness, une fitness d'une population. C'est des termes qui ne sont pas forcément très bien choisis par rapport à ce qu'on entend par fitness aujourd'hui. Et donc, ce qui se passe, c'est que tu vas arriver à un certain optimum qui correspond à ton environnement, etc. Et quand l'environnement va changer, tu vas avoir ces tests d'essai-erreur qui vont t'orienter vers des changements, mettons. Mais ça te demande un coût énorme, un coût énergétique à la population pour pouvoir continuer à faire ces changements-là. Bon, bref, pour aller plus court, ce que je veux dire, c'est que l'humain ressemble à ce à quoi il ressemble par ces tests-là. Et donc, si jamais la biologie avait été intelligente, si jamais l'évolution des espèces avait été intelligente et ne se faisait pas à l'aveugle, parce que c'est ce que ça fait aujourd'hui, les tests d'essai-erreur, c'est à l'aveugle, sûrement qu'on aurait ressemblé à rien à voir de ce qu'on ressemble aujourd'hui. Et donc, quand on regarde ce que font la robotique, par exemple, donc la robotique, souvent, ils aiment bien créer des choses qui ressemblent à des humains. Mais quel dommage. Enfin, je veux dire, qui n'a jamais rêvé d'avoir des yeux derrière la tête ou d'avoir un troisième bras pour pouvoir faire plus de trucs? Donc, pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec des robots humanoïdes qui sont tout aussi handicapés que nous? Et donc, pareil avec l'intelligence générale artificielle, où on veut se rapprocher de ce qu'est capable de faire l'être humain, pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas le problème complètement autre de se dire, tiens, l'humain pense de cette manière-là. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une intelligence qui penserait complètement autrement et qui pourrait être complémentaire de notre manière à nous de penser? c'est plutôt ça que j'imaginerais intéressant. Et du coup, c'est pour ça que je suis incapable de répondre à ta question, parce que moi, j'attends l'autre partie qui arrive, en fait. J'attends la partie où on ne va pas vouloir mimer, mais on va vouloir faire autrement, faire différemment.
Ah oui, non, mais je comprends tout à fait. C'est un éternel débat, hein, qui est valable aussi en robotique. Je regardais là une vidéo sur le CEO de Figure, qui est une boîte de robotique humanoïde financée à hauteur de 675 millions de dollars par OpenAI. Et tu vois, c'est ce qu'il dit. En effet, tu vois, la question du form factor, que ce soit humain, tu vois, ou différent, elle est clé. Après, ben, c'est toujours, ben, eux, ils ont fait ce choix de partir sur de l'humanoïde parce que, ben, tu vois, grosso modo, le monde tel qu'il est aujourd'hui est adapté à l'être humain. Hein, et donc, ces robots, et si on faisait, si on mesurait 10 centimètres ou 3 mètres, le monde serait très différent. Et donc, c'est pour pouvoir nous rendre les services le plus facilement possible. Tu as une phrase de Steve Wozniak, le fondateur, cofondateur de Apple, que j'ai trouvé marrante. Souvent, on parle de AGI, en mode, bon, ben voilà, avoir des capacités équivalentes à l'être humain, et c'est valable dans tout le tertiaire. Mais lui, il te dit, c'est AGI pour lui, c'est le jour où un robot arrive à rentrer dans une maison et à se servir un café à la machine à café, quoi, tu vois, enfin, à la Nespresso. Et ça, je trouve ça quand même assez marrant. Mais derrière, c'est vrai que oui, il peut y avoir de l'autre côté, on peut partir dans un sens complètement différent et voir une complémentarité. Et je pense que c'est déjà une certitude en vrai, même si ChatGPT, l'IA générative, on est sur les réseaux neuronaux, qu'on copie le fonctionnement du cerveau. Je pense qu'on va voir apparaître déjà quand même, et on voit apparaître des intelligences qui sont différentes de la nôtre.
Ouais, après, c'est toujours hyper difficile d'imaginer un truc radicalement différent, parce qu'on imagine que à partir de ce qu'on connaît. Mais ça peut être un vrai sujet philosophique pour le coup. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme intelligence qui soit radicalement différente de la nôtre? En gros, oublier ce qu'on sait et voir comment on peut imaginer une autre réalité.
Super intéressant, Jeanne, ça fait rêver. Écoute, super. Dernière question, Jeanne. Donc, ton livre ou film de science-fiction préféré?
Ah oui. C'est pas facile, hein. Mais je pense que. Alors, mon livre de science-fiction préféré, je vais pas être très original, mais clairement, 1984 de George Orwell, je le trouve fantastique. Vraiment fantastique. Et mon film préféré, je pense qu'il y en a deux. Un très vieux, qui est irregardable, je trouve maintenant, parce qu'il y a des films qui vieillissent mal. C'est Soleil Vert. Et un moins vieux, qui était Bienvenue à Gattaca. On est pas mal dans la dystopie, hein, dans tous ces cas-là. Mais en fait, ce que je trouve intéressant dans les trois et dans les dystopies en général, c'est la partie philosophique. De ce à quoi ça fait penser, comment est-ce que ça nous fait réfléchir, et une certaine forme de miroir par rapport à où est-ce qu'on en est aujourd'hui et comment les dérives peuvent nous amener de l'autre côté.
Bien sûr, bien sûr. Bah, en tout cas, ces dystopies, au final, c'est vrai que c'est ce qui a le plus fonctionné au box-office. Hein, enfin,
Ouais.
et on préfère souvent ces histoires-là à des histoires de bisounours, mais au moins, ça nous aura permis d'envisager pas mal de scénarios
Ouais, c'est
alternatifs
clair.
qu'on veut éviter. Ok, super. Non, non, mais oui. Et Soleil Vert, je ne l'ai jamais vraiment vu en entier, mais je vois très bien que c'est un classique. C'est vrai que ça ne doit pas être facile à regarder, mais ça doit être marrant quand même, en le voyant un peu en
Ouais.
mode série B, quoi. Enfin,
Je l'ai vu très jeune, donc j'avais pas encore trop dans l'idée qu'on pouvait faire mieux en matière de cinéma, mais non, je le trouve vraiment pareil, intellectuellement, il fait réfléchir. Moi, c'est ça que j'aime bien, en fait. C'est les choses qui te font, qui te questionnent. Les choses où tu sors de là et tu as envie d'en discuter pendant 3 semaines en train de te dire, mais tu te rends compte et imagine si. Et voilà, c'est ça qui me plaît.
imagine, on est dans une simulation en fait.
Ouais, c'est ça.
Ok, super. Eh bien, sur cette grande question, Jeanne, je te laisse. C'était génial de faire ce podcast avec toi.
On va suivre
de très près tes aventures avec Being Dream. Et merci beaucoup, Jeanne. Et à bientôt.
Merci beaucoup. Ciao, ciao. À très vite.
Salut. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Comptoiria jusqu'au bout. Pour me soutenir, merci de le partager à deux amis ou de le relayer sur les réseaux sociaux et de le noter 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Pour finir, si vous voulez échanger sur l'IA générative et ses applications, contactez-moi directement sur LinkedIn ou venez simplement au meet-up mensuel Comptoiria. À bientôt.